Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous allons recevoir dans ce studio de la rue d'Assali Francis Pornon qui vient pour son nouveau roman « La fille d'Occitanie ». Merci Francis d'être venu nous parler de ce livre « La fille d'Occitanie » qui est pour nous un livre important. On verra voir tout à l'heure pourquoi. Mais avant, comme tu le sais, cette émission est une émission de poésie, donc je vais faire quelques annonces. Alors, ces annonces, j'en ai fait la semaine dernière. Cette semaine, j'ai bien expliqué la semaine dernière que nous recevions bien sûr beaucoup de livres. Et contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup de publications, de bonnes publications en poésie. La poésie n'est pas plus morte qu'autrefois. La poésie se porte bien à avoir toutes les publications de bonnes poésies. Alors, ce soir, je voudrais simplement citer les publications les plus récentes, parmi les plus récentes, étant précisé que sur beaucoup de ces publications, nous allons revenir et nous y consacrerons peut-être même pour certaines une émission à part entière. Ce sera le cas par exemple avec Gérard Beaucholier. Gérard Beaucholier, un des grands poètes français actuellement, qui publie Tison, poème, aux éditions La Coopérative. Alors, de quoi s'agit-il? La brûlure du désir et la brûlure de l'absence sont les deux grandes sources d'inspiration de ce livre de Gérard Beaucholier, placé sous le signe du feu, dont la genèse s'est étendue sur de longues années. La première partie rassemble des poèmes dont chacun fixe la mémoire d'un instant d'extase, d'une rencontre amoureuse faite de troubles et d'émerveillement. Je le cite, « Lumières éteintes, dans la maison en sursis, nous avons tendu sur le sol la toile d'un feu très obscur. Dans la proximité de Cavafy, de Sandro Pena et de Luis Cernuda, que le poète nomme à bon endroit nos tutélaires, ces poèmes disent avec simplicité la surprise causée par la découverte de l'accord avec le jeune homme désiré. Mais comment faire durer le brasier? Demande un des poèmes de la deuxième partie. Tout aussi incandescente, celle-ci affronte le mystère de la mort et de la séparation et situe l'expérience du désir dans la lumière qui, aux yeux du poète, lui confère sa vérité, celle de la rencontre des âmes, par-delà celle des corps. « Mon Dieu, tu m'accompagnes, la beauté me fait trembler encore, je la traverse comme une vigne vendangée. » Nourri de la lecture des psaumes, comme les précédents livres de l'auteur, ce recueil s'achève comme un bréviaire d'espérance qui affirme que la belle aventure de l'âme ne finit pas. Alors, né en 1947 à Clermont-Ferrand, où il a été professeur de lettres classiques, Gérard Beaucholier dirige depuis plus de 40 ans la revue de poésie Arpa. Il est l'auteur d'une trentaine de recueils de poèmes et poursuit une activité infatigable de critique pendant longtemps dans la NRF et aujourd'hui dans l'hebdomadaire La Vie, là où est notre ami Jean-Pierre Denis.
Oui, je peux dire un tout petit mot.
Oui, bien sûr, Francis.
Lorsque j'étais à Clermont-Ferrand, j'ai connu la revue Arpa.
Arpa.
Et Roger Siméon, qui est un des premiers fondateurs, peut-être avec Gérard Beaucholier. Voilà, et ça me rappelle des souvenirs, de bons souvenirs.
Alors, il a publié également Les Chemins Tournants de Pierre Réverdi, c'est un spécialiste de Pierre Réverdi. Et parmi ses derniers livres de poésie, Les Psaumes du Bel Amour, c'est Ad Solem qui a publié ça en 2010. Psaume de l'Espérance, toujours chez Ad Solem en 2012, et Belle Saison Obscure chez Orfuyen la même année. Les Étreintes Invisibles, L'Herbe qui Tremble en 2016. Voilà, très vite donc un extrait de Gérard Beaucholier, donc Tison. Couchés chacun contre un mur, sur une banquette étroite, nos têtes à portée de songe, la neige, cette nuit-là, débordait toutes les limites. Nos mains errées, perdues sous les couvertures, nos liens brûlants se tendirent jusqu'au dénouement transparent. Bon, il y a là une érotique évidente, mais ensuite, dans une partie... Ce qui nous sépare me fait si mal, me fait si peur, comme une lame entrée au cœur. Puis-je être vieux, moi qui frissonne aux cils de tes yeux? Histoire faite, encore à faire, dans le cahier, la page vierge de ces pas d'oiseaux sur la neige qui disent ce qu'on ne peut dire, de cet ongle inscrit dans la chair qui supplie et vient tout bénir. Voilà, Gérard Béchollier, je tenais à le citer, à le signaler, et je pense que nous ferons bien sûr une émission beaucoup plus approfondie sur cet auteur important de la poésie aujourd'hui. Et puis, on va citer quand même Daniel Faugeras. À chaque jour suffit son poème, c'est des haïkus. Aux éditions Pipa, alors Daniel Faugeras, c'est l'infatigable traductrice, éditrice des éditions Po et Psy, qui sont les éditions les éditions RS à Toulouse, mais qu'elle dirige depuis sa région, là, dans le Gard. Voilà, alors c'est une spécialiste de la poésie courte, brève. Donc il était normal qu'elle fasse des haïkus. Alors, c'est un très beau livre, à chaque jour suffit son poème, une très belle devise. Avec le silence, dans la maison s'installent les araignées. Les œufs durcissants dans la casserole trépignent comme déconcertés. Debout à manger, des sardines à même la boîte. Ah, solitude. Voilà une idée, nous reviendrons, je pense, d'une prochaine semaine, plus en détail sur ces fameux haïkus de Daniel Faugeras. Lecture sous la lampe. Féline derrière ma chaise longue, l'ombre du tilleul. D'une ombre à l'autre, franchir le pas de lumière pour tenir la voie. Daniel Faugeras. Et puis, tout à l'heure, nous parlions de ce désir de l'absence et de la mort avec Gérard Béchollier pour son recueil Tison. Le poème des morts, c'est un des derniers recueils donc, de Bernard Noël. Simplement vous lire un extrait parce que vraiment, il interpelle Bernard Noël. Il manque à l'État un presque cadavre, des appareils pour exploiter les morts. Pourquoi brûler ou enterrer les corps? Chacun est une mine à ciel ouvert, les os, la peau, la chair, la chevelure, un lot précieux de matières premières, longtemps laissées au gâchis religieux. Voilà de quoi inventer des produits, découper, détailler, vendre la pièce. On saura vite extraire de la viande un jus de jouvence aussitôt fameux, pour peu que les médias fassent savoir que son fumet a fait jouir les dieux du temps où les humains les régalaient. La mort enfin sera rendue rentable, si bien que les cadavres manqueront. Alors, sans doute, envisagera-t-on de diminuer la quantité humaine pour augmenter la matière exploitable. La rentabilité est si pratique qu'elle peut servir de règle morale. Enragé dans la cage du destin, dans l'acre final de l'écarissage, la pensée peut seule changer le sens, mais n'ose risquer le déraillement pour que soit gagnée la lutte finale. L'humain a du mal à troquer son trac contre la jouissance du présent. Entre le rire et la brèche béante, il s'invente en vain un corps sans organes. Toujours l'abrupte éclipse et la pendule. L'os est là d'armer notre chair fragile. La salive a trop baigné nos amours. La langue hésite à nommer l'agonie. La fermentation de la plaie qui pue sous le crachat du dernier pansement. Quand le regard s'écœure à ce constat, on le tourne soudain vers le cerveau pour qu'il voie glisser l'ombre des pensées, puis s'éloigner la rive des attaches. Le paradis n'est plus la bonne idée. On ne recycle aujourd'hui que les murs. Voilà, à lire absolument, donc Bernard Noël, Le poème des morts, c'est publié chez Fata Morgana, un très beau livre bien sûr. Bernard Noël, dont je ne reviendrai pas puisque évidemment ça fait partie de ces poètes les plus connus de la poésie française. Et puis pour finir, je voudrais parler de Fred Ducombe. Alors Fred Ducombe, tu as certainement tenu Michel. Ducombe.
J'ai connu Fred voilà. aussi, d'ailleurs.
Ah, tu as connu Fred aussi, oui. Alors, Michel, qui est un poète de notre génération, et qui a la chance d'avoir un fils sur ses traces, hein, puisque Michel Ducombe, qui a fait partie de la qui est d'ailleurs, je pense, toujours au comité de rédaction
Toujours au
d'Encre Vive,
comité
hein, c'est
d'entreprise, oui.
un des vieux de la vieille d'Encre Vive que nous connaissons bien. Hein.
Un slameur de notre âge.
Voilà. Et Fred Ducôme, voilà. Fred Ducôme, dont son fils, donc poursuit cette vocation poétique et il l'a fait paraître. Alors, je pense qu'on fera une émission avec lui. Hein. Il va venir à Toulouse, donc nous allons profiter de ce passage pour le faire venir dans ses studios. Mais je voudrais signaler
Faudra me
d'abord,
prévenir, je me réjouirai de le rencontrer à
avec
nouveau.
plaisir, donc je t'inviterai également. Donc, il dirige les éditions 39-17, à voir sur Internet, 39, édition 39-17. Et là, il publie, avec d'ailleurs Yves Bellobre, il publie Papier d'Essaouira, donc au Maroc, tu dois connaître certainement. Donc, nous
Et je crois
connaissons.
que ses
Voilà.
parents, surtout, connaissaient très
Ah oui,
bien.
ah oui, la menait souvent là.
Ils ont fait partie
D'accord.
des coopérants
Ah oui,
là-bas,
d'accord. Il était là-bas, oui.
il me semble.
Oui. Bon, j'y suis allé moi aussi quelquefois.
Et donc lui a dû aller peut-être sur les lieux
Oui,
pour
d'accord.
faire une
Alors,
sorte de pèlerinage.
et puis il publie, alors ça c'est aux éditions 39-17, il publie Esdor Yedis Assoules avec Antonio Lachos et Frédéric donc Ducôme, un très beau livre de photographie et de très beaux textes courts sur les réfugiés espagnols, républicains espagnols. Voilà, un très beau livre qui est.
C'est un livre qui est publié
Alors,
il y a déjà quelques années, je
oui,
crois, sauf erreur,
voilà,
hein,
oui.
un très beau
Mais
livre.
c'est un très beau livre, très beau livre. Donc, qui a été publié, je n'arrive plus à trouver le nom de l'éditeur. Avec, alors, il y a du concours de énormément de. Le gouvernement d'Aragon, le conseil régional des Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne, la mairie de Huesca, etc. Tout cela a contribué donc, à ce très beau livre. Donc vous trouverez les références sur notre site lespoètes.fr. Très vite, donc, un court extrait du premier livre dont j'ai parlé, de Fred Ducôme, aux éditions 39-17. On aiguise nos errances de fer jusque dans les Thébaïdes, machette au poing pour défricher le parchemin dans les roulis des signes aggravés, sur les sables Nakara, où es-tu? Qu'importe, puisqu'on te cherche sous le tapis ou sur la ligne le plus longtemps possible. Voilà. Francis, bon, on va te présenter. Tu es un familier quand même de cette émission. Hein. C'est souvent que tu viens.
Oui, presque, oui.
Oui. Tu es venu présenter tes livres de poésie, en particulier Le Chant Général, aux éditions Encre Vive, les deux volumes. Tu es venu présenter ton anthologie, dont je ne me souviens plus du titre.
Par-delà le grand fleuve.
Voilà, Par-delà le grand fleuve.
Donc, qui est un recueil des poèmes que j'ai écrits depuis, c'était à l'époque depuis 25 ans à peu près. Donc là, il y a un peu plus de temps, que j'avais rencontré l'éditeur Thierry Renard,
Ah oui, Thierry Renard.
voilà, qui était
Oui,
fondateur de
d'accord.
Parole d'Aube et qui est maintenant à la Passe du Vent à Lyon.
Alors, tu es venu également présenter tes romans. Alors voyons, ce que tu as présenté ici, indépendamment du triptyque dont nous allons parler immédiatement, tu es venu nous présenter À la santé des Pachas, je pense. Hein, tu es venu présenter ça aux éditions Après la Lune. Et le coffret, les nouvelles, le coffret, qui était paru aux éditions Orsin. Et puis tu as fait un très beau livre sur Jaurès à Toulouse, Lieu et mémoire, hein, avec les dessins d'Amina Igra. Ça, c'était aux nouvelles éditions Loubatière, c'était en 2014. Donc ce livre est toujours disponible et vraiment, on ne saurait le conseiller à tous les amoureux, à la fois de Toulouse et de Jaurès. Et puis tu as même écrit des nouvelles érotico-historiques, Au temps des belles.
C'est ça,
Au temps des
mais
belles.
on ne peut les consulter que sur
Sur
Internet,
Internet, les éditions
mais que je
électroniques
trouve, voilà, l'édition
SK,
électronique
SKA.
SKA, SKA édition, SKA éditeur, pardon.
Voilà. Et puis, alors, les dames et les aventures du troubadour Raymond de Miraval, qui a été présenté également à l'Oustal, maison d'Occitanie. Ça, c'était aux éditions TDO en 2016. La Dame de Toulouse, Azalaïs de Burlatz, roman, toujours mêmes éditions. Béatrice, qui est nouvelle in 1917, Octobre Rouge, c'est quoi ça? Arcane 17.
C'est une publication de nouvelles à l'occasion de l'anniversaire de 1917.
Ah oui.
Voilà. Et j'ai écrit une nouvelle
D'accord.
dans ce
Homme de
recueil.
l'avenir, souvenez-vous de nous. C'est ça. D'accord. Le passe-vent. Alors, on va revenir sur Les Dames et les Aventures du Troubadour Raymond de Miraval, La Dame de Toulouse, et puis le dernier donc triptyque, titre de ce triptyque, La Fille d'Occitanie, donc toujours aux éditions TDO. TDO. Alors là, on est au cœur de l'Occitanie, bien sûr, au cœur d'une région et d'une période qui est une période qui a marqué l'essor, vraiment, l'apogée. De la civilisation occitane. Et je vais partir sur une phrase d'une romancière contemporaine qui est Catherine Pancol, qui dit ceci: Ce n'est pas tout que d'aimer et d'être aimé. Il y a l'amour, puis il y a la politique de l'amour. C'est une politique obligée. Voilà. Alors, on va partir sur cette idée de la politique obligée de l'amour, pour parler de la politique obligée de l'amour chez les troubadours. Mais avant, si tu le veux bien, nous allons écouter, alors venant de quelqu'un que tu connais bien, qui est Gérard Zucchetto, qui dirige Troubavox, merveilleuses éditions à la fois de livres et de musique, de CD. Et on va écouter là des voix de femmes troubadours, voix de femmes troubadours, puisqu'il a sorti un CD avec ce titre, chanté par Céline Mistral, Carole Matras et Sandra Hurtado Ross, que tu connais bien également. Et nous avons choisi Dans un verger, sous un feuillage d'aubépine. Voilà. Voici les paroles. Dans un verger, sous un feuillage d'aubépine, la dame a retenu son ami auprès d'elle, jusqu'à ce que le guetteur ait crié qu'il a vu poindre l'aube. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, l'aube, elle est déjà là. Plût à Dieu que jamais la nuit ne finît, que mon ami ne me quittât, que le guetteur ne vit jamais ni jour, ni le jour, ni l'aube. Ô Dieu, l'aube est déjà là. Baudou ami, baisons-nous, vous et moi, là-bas, dans le pré, où chantent les oiseaux, aimons-nous parfaitement, en dépit du jaloux. Ô Dieu, l'aube, elle est déjà là. Voilà. On l'écoute.
Donna son amicus tassi tro la gaita crida che l'alba vi o Deus dell'alba tanto stve o Deus dell'alba tanto stve. La gesta Dio di alla nuit non fallis, il mio amix nun deminus partis, ni lagaita giorn, ni alba novis. O Deus, dell'alba tanto stella. O Deus, dell'alba tanto stella. Es tus amis, paisem nos nievos, avales prats un chantus auselus. Tutto fa sam, en despic del gilus. O Deus, dell'alba tanto stve. O Deus, dell'alba tanto stve. Che son caramel. O Deus, dell'alba tanto svele. O Deus, dell'alba tanto svele. Per la dussaura che svenga dell'ai, del mio amico ben sicurtissima. Ei begis fundus rai. O Deus, dell'alba tanto svelo. O Deus, dell'alba tanto svelo. Madonna, esagrada sa beuta la gardo mantasens visa sum cor en amar le amen. O Deus, dell'alba tanto sve. O Deus, dell'alba tanto stella.
C'était donc Voix de femme troubadour. On a écouté là le texte d'une femme troubadour, hein, et qui introduit bien donc le sujet de la fille d'Occitanie, puisque la fille d'Occitanie va se situer donc dans cette période des troubadours, hein, dont tu avais parlé évidemment dans tes précédents. Les deux précédents romans, que ce soit bien sûr à propos de Raymond de Miraval, qui par essence est de troubadour, mais également avec La Dame de Toulouse, où on voit aussi quelle a été l'influence remarquable des troubadours sur la cour du comte de Toulouse et d'une façon générale, bien entendu, sur toutes les cours de cette période, et en particulier toutes les cours de notre région d'Occitanie. Alors, avec La fille d'Occitanie, on arrive là à un ouvrage qui est un ouvrage d'abord remarquable, parce que vraiment il y a un travail considérable, hein, c'est un gros livre, hein, il y a plus de 400 pages, donc beaucoup de travail, un travail de romancier donc qu'il faut saluer, mais également une grande originalité, parce que quand on parle de cette période, on ne parle effectivement que des seigneurs de la noblesse ou des troubadours, c'est-à-dire des clercs. Les clercs et les nobles, les puissants, que ce soit de puissance de pouvoir ou puissance de pouvoir de l'esprit. Et là, eh bien, Francis Pournon, lui, il est allé chercher Colomba, la fille d'Occitanie, c'est-à-dire une fille du peuple. Bon, on va voir comment cette fille du peuple arrive à se faufiler quand même dans les méandres de cette société très hiérarchisée de cette époque, et comment elle arrive à percer sa voie et avoir un destin hors du commun. Alors, un très beau roman qui nous tient en haleine le long de ces 400 pages, mais également, à travers ce roman, on découvre une période et, je dirais, toute une sociologie de cette période, ce qui est un des aspects non pas les moins intéressants de ce roman. Il y a l'histoire, bien sûr, mais il y a aussi comment on vivait à cette époque-là, comment s'articulaient un petit peu les classes sociales, comment on voyageait d'un lieu à l'autre, quel était le quotidien aussi de cette vie, comment l'art arrivait à se propager. Tout ça est très intéressant. Alors, je vais te laisser la parole et tu vas nous parler de cette Colomba qui, tu dis, pauvresse devenue servante, qui vit à la fois le sort d'une femme ordinaire du Moyen Âge et une exceptionnelle ascension sociale, avec des aventures incroyables dans un monde troublé de guerre et de croisades.
Oui, alors pour entrer ou te suivre dans le sujet, tu as assez bien compris et défini les choses. Je voudrais préciser que il y a des années, mais de nombreuses années, que je voulais faire un livre, un grand livre, modestement, enfin un grand par l'importance pour moi au moins, à propos de cette époque de la culture des troubadours, du Moyen Âge occitan, de cette société aussi méconnue, qui présente des intérêts assez méconnus. Et puis, bon, il a fallu du temps. Il a fallu que ça mature. J'accumulais de la documentation, je ne sais qui, c'est Franck Bardou, je crois, dernièrement, qui m'écrivait: Mais Francis, si tu n'arrives pas à commencer ton livre suivant, c'est pas grave. C'est que il faut toujours que ça vienne de l'inconscient et ça prend du
Oui,
temps.
c'est ça.
Et ça doit être ça et ça me rassure un peu. Parce qu'effectivement, après ce travail, j'avoue que je renâcle et je patine pour me lancer dans le travail suivant. Cette série de trois romans n'a pas été programmée comme ça. Je voulais faire une sorte de grand livre et puis je me suis dit, écoute, à défaut de grand livre, le grand livre du siècle, tu vas attaquer un premier roman sur Raimund de Mirabal, que mon père admirait, et il avait d'ailleurs connu et rencontré René Nelly, et étant né dans le coin, à Limoux, alors que Mirabal était originaire justement de ce petit coin Mirabal au-dessus de Carcassonne,
Absolument.
je me suis lancé. J'ai d'abord écrit donc l'histoire romanesque très romanesque hein, en soi de ce troubadour. Et puis ensuite je me suis dit bon mais ça fait pas le compte. Faut écrire l'histoire d'une femme qui a compté pour lui, pour tous les troubadours de l'époque, Azalaïs de Burlatz, la fille du comte de Toulouse Raymond V, sœur de Raymond VI d'ailleurs. Voilà. Et quand j'ai eu écrit, alors elle aussi vit très romanesque, intéressante, vue avec les yeux d'une femme, autant que faire se peut, hein, pour un vieux macho incorrigible comme moi, mais nous sommes de la même génération. Mais enfin bon, on s'est quand même travaillé. Et tâcher de se mettre dans la peau des personnages. Et puis après avoir terminé ce deuxième roman, je me suis dit, là aussi, comme tu viens de le faire remarquer, ça ne fait pas le compte. Il faut quand même regarder comment ça se passait du côté du peuple. Alors, il est vrai qu'on a très très peu de documentation sur le peuple à l'époque. Quand on lit même des livres de Duby, on s'aperçoit que on sait assez peu de choses. On en sait beaucoup sur les dames, Duby notamment, a synthétisé ça. Les dames, c'est-à-dire les nobles. On en sait sur les troubadours aussi, parce qu'ils ont laissé des écrits, entre autres, et puis il y a les Védas qui sont des commentaires, etc. Mais quand même, on a la chance d'avoir le roi Ladurie et son Montaillou village occitan, qui est une mine sur le mode de vie du peuple, des paysans de l'époque et du lieu. Donc je m'en suis servi, au moins beaucoup, au démarrage. Et j'ai ainsi, en quelque sorte, bouclé la boucle. J'ai l'impression, et quand on a cette impression, je pense qu'il faut s'arrêter. J'ai l'impression que le cycle est terminé, là. Il y a trois romans importants, chacun, je veux dire, par le volume au moins. Et donc, je vais passer à autre chose, probablement toujours autour de l'Occitanie. Mais enfin, bon, j'ai des plans, j'ai des tas de choses. Voilà. Restons-en quand même. Je voudrais, parce que chacun connaît la frustration d'éditer un Occitanie à propos de l'Occitanie. Pour un Parisien, pour un journaliste parisien, c'est beaucoup moins intéressant que de parler des Zoulous ou des habitants du Sahara ou des Indiens d'Amérique du Sud. Hein. Voilà. Donc, j'aimerais, et ton émission m'y aide, entre autres, j'aimerais ce qu'il y ait un retentissement un peu palpable en France, et pas seulement en Occitanie, même si je me reconnais d'ici.
Alors, ce livre pour moi, enfin ces livres, puisqu'il y en a trois, mais ce dernier en particulier, me semble très important également pour la connaissance donc de notre Occitanie, mais au-delà de l'Occitanie, il y a quelque chose d'universel, au moins d'européen, puisque quand même c'était un petit peu à cette époque-là le phare de l'Europe, en tout cas pour ce qui était des arts. Il y a dans ce livre, donc tu t'es inspiré bien sûr de ce merveilleux livre dont tu parlais sur Montaillou,
Le
le
roi
village de la
l'Algérie,
Loire
oui.
d'Oury, village occitan. Heureusement qu'on a eu cette étude qui est une étude fabuleuse. Il y a Duvernant aussi qui avait fait pas mal de choses sur la femme cathare, le rôle de la femme cathare et le quotidien de la femme cathare. Mais il y a dans ce livre, il y a aussi un glossaire. Je trouve que c'est important, ça aussi. Un glossaire qui nous permet de pouvoir nous familiariser un petit peu avec les mots qui étaient employés à cette époque-là et qui, pour certains d'ailleurs, ont donné des occitanismes. Hein. Voilà, par exemple, tout à l'heure, on a parlé des femmes troubadours. Mais les femmes troubadours, ça se dit une troubadourice, troubadourice. Hein.
Trobaïrits, oui, c'est ça.
Troubadourice, voilà.
Trobaïrits,
Voilà.
oui.
Donc il y a c'est un ouvrage qui est à la fois, et c'est son premier rôle quand même, c'est un ouvrage, je dirais, de plaisir, de distraction. On lit ça, c'est un roman. Donc quand on lit un roman, c'est aussi se faire plaisir. Lire un roman, il y a tout le plaisir de découvrir l'histoire, etc. Mais en dehors de ça, ce que je disais, c'est un livre qui est aussi un livre très pédagogique. Et malgré tout, il y a très peu de livres pédagogiques, je dirais, dans la vulgarisation au sens noble du terme, sur cette période-là. Et là, Francis, là, tu nous offres, avec ces trois livres, tu nous offres ce véritable, ce qu'on attendait, ce chaînon manquant, là. Il y a des ouvrages savants, mais bon, des ouvrages savants, c'est très bien qu'il y ait des ouvrages
Voilà,
savants,
oui. Le
mais
problème de la
voilà.
culture occitane, c'est
Voilà.
que elle est devenue essentiellement une affaire de
De spécialistes.
spécialistes,
Voilà, très bien.
d'universitaires. Alors, il y
Voilà.
a beaucoup de travaux dans
Oui,
ce domaine.
tout à fait. Tout à fait. Et donc,
Mais
c'est pour ça qu'il faut absolument lire La fille d'Occitanie de Francis Bourdon aux éditions Tédéo, vraiment. Parce que non seulement c'est un plaisir, par exemple, je sais que ma fille est partie avec tes romans, et je sais qu'elle va passer des moments très, très, très agréables en disant ça. Mais en même temps, je sais qu'il en restera quand même quelque chose, et donc malgré tout, elle qui aurait. N'allez pas voir justement un petit peu cette histoire de l'Occitanie parce que ça peut être un petit peu fastidieux. Avec ça, eh bien, elle va y plonger, je
J'en
dirais,
serais ravi.
dans le plaisir. Voilà, dans le plaisir. Voilà. Et ce n'est pas innocent si effectivement je lui ai mis ce livre entre les mains. Voilà. Si tu veux bien, Francis, donc cette dame, elle naît. On va parler quand même un petit peu de la naissance. Elle naît, parle-nous du lieu et de l'endroit où elle naît.
Oui, elle naît à Montaillot, c'est-à-dire quasiment à la limite. C'est plutôt sur l'Ariège, je crois, mais enfin, c'est à la
Oui.
limite de l'Aude. Et c'est à la montagne, donc un milieu particulièrement défavorisé, où il fait un froid de canard l'hiver. Elle est très déshéritée, ou plus exactement démunie. Elle naît dans un orry, c'est une sorte de cabane de pierre que on recouvrait de terre et d'herbe pour essayer de la tempérer un peu, mais enfin, il faut imaginer les conditions presque animales. Et donc, heureusement, elle va rencontrer plus tard, alors là, je passe sur les conditions de son enfance, elle va rencontrer Azalaïs de Burlat de passage dans le coin au cours de ses pérégrinations, laquelle va l'apprendre. Avec sa mère comme servante. Voilà. Et c'est à la faveur de cette entrée dans une cour que, bien qu'étant servante, et bien qu'on lui. On se, non pas Azalaïs, mais enfin les autres lui rappellent tout le temps sa condition d'origine, elle va réussir à entrer dans le monde où on a autre chose que. Le souci de se nourrir et de préexister et de subsister, pardon. Et en même temps, on va rencontrer aussi le trauma, la poésie d'amour, l'amour courtois, qui est une des grandes richesses, comme tu le sais bien, de cette période et de ce temps-là.
Alors, elle va apprendre à lire, ce qui est
Alors, elle va, oui,
exceptionnel
voilà, elle va
pour ce
apprendre à
milieu-là.
lire tant bien que
Oui,
mal.
oui.
Tant bien que mal, elle va profiter d'une situation, du fait qu'on apprend à lire des jouvenceaux de la cour, tant bien que mal, plus ou moins bien,
Pour
mais
un
ça va lui
réfugié aussi,
permettre.
c'est un réfugié qui va apprendre à lire.
Exactement, un
Bon, vas-y.
réfugié juif chassé de Paris par les avatars du siècle, en quelque sorte, et qui va lui apprendre
Oui, et qui est accueilli au château.
à.
Déjà, il y avait déjà donc
Voilà, des
cette
traditions
hospitalité,
d'accueil, oui,
voilà, tradition
où on
d'accueil.
accueillait souvent les
Oui,
Cathares.
oui,
Enfin, c'était pas tout
oui,
rose, hein.
oui, oui, oui,
Certains
oui,
occitanistes font de
oui,
cet âge un
oui,
âge
oui
d'or où
comme
tout allait
l'Andalouse,
bien.
hein, c'est pareil, hein.
Voilà, c'était pas un âge d'or, mais on ne trouvait pas les exclusives qu'on a pu vivre dans le Nord, puisque notamment les Juifs avaient une place importante dans les grandes villes, Béziers, Narbonne,
Voilà.
Montpellier.
Personne.
Carcassonne et d'autres, et les Cathares n'ont pas été pourchassés, même si parfois les nobles et les comtes de Toulouse notamment jouaient un peu un double jeu, un jeu savant comme tous les seigneurs de l'époque.
Alors, la mère de Colomba vit sans mari également, hein, et tu vas. On va voir quel est le statut social de la femme à cette époque-là. Déjà, une femme sans mari avec une fille, ça pose problème.
Bien sûr, bien sûr. Ben, disons que cette société est codifiée un peu comme toute, surtout en ce temps-là, hein. Mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. On s'aperçoit par exemple que vers Montaillou, vers ces zones montagneuses, Les curés ont souvent des femmes attitrées, même s'ils ne sont pas
Oui,
mariés.
surtout le curé de Montaillou, hein.
Voilà, notamment le curé de Montaillou,
C'est assez avoué quand même.
Oui, que le roi Ladurie montre comme
Oui, montre,
étant
oui, comme
un
un
grand
sabreur,
séducteur, un
un
sabreur, un
sabreur.
sabreur, oui,
C'est son
entre
terme
guillemets.
exact,
Oui, c'est ça,
oui.
exactement. Les mariages entre nobles sont des mariages politiques, des alliances politiques qui se font et se défont sans l'avis des femmes, en général sans l'avis des hommes non plus. Hein. Ce sont les familles et les États qui les marient. Toutefois, la situation féminine est inférieure à celle de l'homme. Mais enfin, dans le Midi, ou dans l'Occitanie plus exactement, les femmes, les dames bénéficient de possibilités qu'elles n'ont pas dans le Nord. Elles peuvent hériter, elles peuvent régner, c'est pas rien tout ça. Et en général, alors ça tient à la forme du mariage, bien souvent elles ne résident pas, elles ne vivent pas avec le mari. Elles le rencontrent parfois, c'est tout. Ainsi, Azalaïs de Burlat va être enceinte 15 ans après son mariage. Ce qui fait que Bernard Mahoux, qui a fait un livre sur elle aussi, a fait l'hypothèse que elle s'est décidée au bout de 15 ans à donner un héritier, puisqu'il fallait un héritier pour prendre la suite. Mais franchement, moi j'ai préféré une hypothèse qui me paraît plus probable et surtout beaucoup plus romantique, car elle venait de vivre une aventure avec le roi d'Aragon, Fernand, et elle aurait été tout simplement enceinte de lui. Voilà. Et ce qui aurait donné le vicomte Raymond Roger de Carcassonne, Béziers Albi, etc.
Alors, si tu le veux bien, Francis, nous allons t'écouter, nous allons te demander de nous lire un extrait donc de ce livre pour faire entendre cette voix.
Alors, tout simplement, le prologue de La fille d'Occitanie. Et j'en profite pour vous faire remarquer, mais vous l'entendrez tout de suite, que ces livres sont des pseudo-autobiographies.
Oui, pardon, on n'a pas parlé de ça. Oui,
C'est-à-dire
c'est-à-dire,
que,
c'est elle qui parle.
voilà,
Oui,
c'est
oui.
elle qui est censée écrire, ou du
Oui,
moins,
oui.
je ne veux pas dévoiler la fin, mais enfin, du moins se raconter. Car, tu l'as dit justement, ces romans sont des tentatives de populariser la culture occitane classique, la grande culture occitane, mais en même temps, ce sont des démarches littéraires.
Bien sûr.
J'en suis à mon 14e roman. J'ai écrit pas mal d'autres livres aussi. J'aime bien, en même temps, que ce soit toujours une démarche littéraire. Et là, la démarche littéraire, c'est une sorte de jeu qui est en même temps écrire par le je, mais J-E, et non plus J-E-U. Comme si je pouvais me couler dans la peau d'une femme, d'une jeune femme, toute jeune femme de l'époque. Encore une
Oui,
fois, pour un
oui,
vieux macho
oui.
incorrigible, ça demande un petit effort,
Oui.
mais voilà.
C'est
Les défis,
oui,
c'est
c'est un
bien.
défi que tu as bien relevé et qui est bien réussi, en tout cas. Hein.
Voilà.
On arrive même bon, à oublier complètement que l'auteur est. On est vraiment, quand on lit ça, on est
Voilà.
dans Colomba, hein,
Et
complètement.
il
Hein.
y a un deuxième jeu, alors J-E-U, c'est
Oui.
de tâcher de trouver une langue plausible pour ce personnage et pour cette époque.
Ce
Ça
que
n'est
tu
pas, bien sûr, de l'ancien
as.
Occitan.
Voilà. Mais tu mets des mots, voilà, d'où l'importance du
Voilà.
glossaire. Voilà.
Il y a
Voilà.
une
Il y a une
coloration.
coloration.
Et quand un
Très,
mot est
très
un
bien
peu
fait.
étrange,
Alors,
il est reporté
oui,
dans le
voilà, dans le
glossaire.
glossaire.
On peut aller voir
Oui,
sa
oui, oui, oui.
signification.
Oui. Ce qui veut dire qu'on le lit avec facilité, avec plaisir. Donc, c'est un livre jubilatoire quand même. Hein. Et en même temps, il y a cette imprégnation de cette période-là, cet apprentissage de la période, hein, qui se fait sans effort. Et quand on a un problème, on va se glossaire. Voilà. On apprend par le plaisir, en plus du roman.
Ben, le
Voilà.
plaisir,
Alors,
c'est
tu as
bien.
choisi le prologue.
Voilà le
Bien.
prologue.
Alors, on écoute.
Je n'ai crainte à le dire, je suis un miracle, ou presque. Fille née dans la terre de montagne, de mère paysanne et de père inconnu, mon chemin passa par de folles aventures. J'eus d'abord les pattes dans la fange. Excusez-moi de parler franc, c'est ainsi que j'aime à conter ma vie, et c'est ainsi que je la veux transcrire. Je vécus le statut de servante, voire des états pires encore. Et parfois je bénéficiais d'une plus brillante condition, celle de suivante d'une châtelaine. Il ne m'était possible d'apprendre entièrement à lire et à écrire, quand maint seigneur et à plus forte raison bien des femmes ne le faisaient. Pourtant, j'eus la chance inespérée de pouvoir goûter la poésie d'amour. Je naquis de ma mère. Bien fort qui peut faire autrement. Elle me nomma Colomba, comme l'oiseau blanc paisible, alors que j'étais agitée et fort brune. Je restais autant que possible au chaud de son giron. Rien et nul autre ne me protégea, ce qui ne me laisse confiance en personne sinon en la mer et encore. Je vécus tout d'abord dans un orry, comme on disait chez nous, d'une cabane en pierre sèche. Elle était heureusement recouverte de terre et d'herbes qui nous défendaient contre le climat terrible en montagne. Mes festins étaient faits de lait de chèvre, de racines, de brou et de fèves ou de farine de châtaigne. Lorsque je passais la tête par l'entrée, étroite et basse, je voyais les pentes jaunies par le gel ou blanchies par la neige, le castel aux lourdes murailles grisâtres, et les monts abrupts qui ombraient le plateau. Mes premiers jours s'étirèrent à la lumière des Pyrénées, glacés par les neiges et le cerce l'hiver, rôtis en été du soleil de midi. Dans la montagne, bien qu'on soit situé plus près du ciel, la lumière décuplée par les glaces et le soleil tombant dru, le monde sauvage est un hiver glacial où l'on est ballotté et parfois écrasé par événements et cataclysmes. Or, je découvris ensuite comme la vie est aussi printemps, pointante avec des fleurs qui percent la neige. Après la tempête s'épanouit une embellie délicate et passionnée, celle de la poésie d'amour qui nous fait célébrer par de jeunes, beaux et valeureux hommes, nous, femmes ainsi reconnues. Je survis maintenant, au début du XIIIe siècle, en cette capitale de Toulouse, à des jours de cheval de mon lieu d'enfance, où je naquis voilà quelque 40 années. En ce monde, règne la loi du plus fort. Fruits et proies sont au plus gros animal. Les plus faibles n'ont qu'à fuir ou se laisser dévorer. Terres et gens, castels et choses appartiennent au Seigneur. Leurs gendarmes arrachent aux cerfs le produit de leurs bras. Les guerriers mutilent têtus. Les mâles prennent des femmes en tribut. Avec tout ça, ils invoquent Dieu pour justifier d'horribles forfaits menteurs. C'est un dur et long chemin, celui d'une femme née de peu et ne possédant rien. Près de la terre, elle la touche sans cesse, la piétine, la travaille et peine même à s'en laver. Si par chance elle s'élève au-dessus du rang de servante, elle accomplit pourtant des tâches malodorantes ou épuisantes. Il est cependant des femmes humbles qui mérite mémoire, il en est de nombreuses qui chantent jour et nuit, il en est même de belles et valeureuses femmes qui peuvent hériter, régner et accomplir toutes sortes de tâches relevées, voire chanter le trésor de la poésie. Voici ce que chanta Anna Castellosa, que je traduis en langue de France. Carun mai chan et pieis me vai d'amour, car plus je chante et plus m'en vais d'amour. Or, j'ai au cœur, avec l'amour et l'amitié, les exhalaisons de la montagne, celles des bois et des garrigues, les fragrances de cités de légende, les souvenances de voyages aventurés. Et ma tête porte maints échos et images, chevauchées par forêts et prairies, castels emplis d'histoire, cours murmurantes d'intrigues et encore d'amour, Boudjiou, c'est qu'il y en a des amours. Et alors, je mets toutes mes forces et aussi mon plaisir à vous conter mes aventures.
Voilà, merci Francis Bourdon. La fille d'Occitanie, donc là c'était le prologue, hein, tu introduis bien ce qui va se passer dans ce roman, un petit peu, on dirait, la philosophie un peu de ce livre. Voilà, alors on voit quand même, dans les 400 pages, il s'en passe des choses. Hein. C'est pas, elle n'a pas eu une vie de tout repos. Hein.
Parfois, oui, parfois très
Oui,
difficile.
parfois très difficile, mais elle a beaucoup de chance quand même. Au dernier moment, les choses reprennent. Alors, je crois que il faut lire ce livre, parce que aussi, je crois beaucoup à la vulgarisation. Ça se fait, c'est comme ça qu'on apprendra aussi. Je pense au livre de Baudis, par exemple, Dominique Baudis, ce qu'est le livre de Baudis sur Raymond. Le comte de Toulouse, bon, a eu un gros succès et c'est heureux parce que ça a permis également de connaître ce qu'a été Raymond d'Orient, ce qu'a été la puissance des comtes de Toulouse à Tripoli, etc. Tout un pan d'histoire qui ont été bien appréhendés par ces livres et bien diffusés. C'est-à-dire que les Toulousains, maintenant, savent un peu ce qui s'est passé à cette époque-là.
Tout à fait, oui,
Voilà,
c'est un
voilà,
livre qui m'a intéressé,
voilà.
hein. Bon, on dit toujours, je tiens à le redire, qu'il ne faut pas confondre l'auteur
Ah oui, bien entendu, bien sûr,
et
oui, parce
la
que oui,
production et la création. Et le livre est effectivement bien informé, bien écrit, intéressant.
oui, voilà. Alors, c'est pour parler des romans historiques. Voilà, c'est un roman historique utile. Dans tous les sens du terme. Il y a le plaisir évidemment de la lecture, le plaisir du roman. Il y a également le plaisir littéraire, c'est-à-dire cet exercice littéraire que tu as réussi, de pouvoir parler comme ça, faire parler une dame tout le long de ces 400 pages qui raconte sa vie sans essoufflement. Et puis, il y a aussi, je dirais, la connaissance historique. Hein, de cette période, qui est pour nous une période intéressante, puisque c'est là que se figent quand même les grandes traditions de l'amour courtois, c'est-à-dire de toute la poésie qui en a découlé.
C'est ça, oui, c'est important pour nous, comme tu dis, et il faudrait que cela fût important aussi pour tous les Français.
Oui, bien
Parce
sûr.
que, comment dirais-je, l'oubli ou l'occultation, je ne sais pas, de cette grande période historique où le Sud était plus avancé, plus florissant, plus dominant et fort dommageable.
Tout à fait. Donc Francis Pournon, La fille d'Occitanie, aux éditions T&D, collection Histoire du Sud, 20 euros à lire absolument. Je vais terminer juste par ceci. L'Académie des Jeux Floraux, qui est née effectivement de la rencontre de cette troubadour, hein, qui existe depuis 1323, remettra le 3 mai, parce que c'est un jour historique, hein, c'est un 3 mai que ces sept troubadours ont remis pour la première fois les fleurs. L'Académie des Floraux donc va remettre le 3 mai au cours de sa fête des fleurs. Elle va décerner nombreux prix pour récompenser des œuvres poétiques ou littéraires en langue française ou en Languedoc. Et ce concours annuel, qui était ouvert à tous en France et à l'étranger, donc sera récompensé, ce concours. Les lauréats seront promus donc le 3 mai dans la salle des Illustres à Toulouse. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, très rapidement, Franck Bardou m'a dit qu'on te verrait samedi sur la place Saint-Georges avec Jordi.
Voilà, je viendrai saluer seulement, hein, je ne
De quoi
pourrais
s'agit-il,
pas.
hein? En deux mots, en deux mots.
Oui.
De quoi s'agit-il?
Il s'agit de la Saint-Jordi, qui est
Ah, ça, oui, pour la Saint-Jordi.
une
Voilà.
fête plutôt catalane
Oui, oui, oui,
qu'occitane, mais
oui.
enfin,
D'accord.
nos deux
Voilà.
cultures sont très très cousines.
Très bien. Merci beaucoup, Francis Bourdon. Et à très bientôt. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adios.